Rock en scène 2007 au Domaine National de Saint-Cloud les 24, 25 et 26 août avec radiofrance.fr. Pour assister aux concerts de Björk, Arcade Fire, Larry Tamizuko, Amy Winehouse, Kings of Leon, The Hives et bien d'autres artistes, jouez avec nous. Envoyez Rock par SMS au 62030 pour gagner des places et profiter du meilleur du rock d'aujourd'hui. Jeu valable jusqu'au 31 mai, 35 centimes d'euros par envoi plus coût d'un SMS. Rock en scène 2007, pour tout savoir, radiofrance.fr.
France Inter, franceinter.com.
Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé des roses éternelles, la fin de la douleur, tous les enfants contents et tant de choses encore qui dorment dans les crânes. Boris Vian. Ans d'histoire. Il est mort d'une crise cardiaque dans une salle de cinéma le 23 juin 1959, à l'âge de 39 ans, en assistant à l'adaptation du livre qu'il avait fait connaître 12 ans plus tôt. Lorsqu'en 1947, avec « J'irai cracher sur vos tombes », Boris Vian venait de publier le premier et le plus sulfureux de ses romans. Encore inconnu du grand public, il incarnait alors la rage de vivre d'une génération que la guerre avait privée de jeunesse et qui se défoulait dans les caves et les bars de Saint-Germain-des-Prés. Au Café de Flore, au Tabou ou au Club Saint-Germain, elle venait boire et danser sur des musiques interdites pendant l'occupation et entendre ce touche-à-tout de génie qui, entre deux romans, jouait de la trompette au Quartier Latin.
Connaissez-vous le quartier de Saint-Germain-des-Prés ? Ici, l'esprit s'abreuve, le corps aussi d'ailleurs.
Oui, à 9h30, on entasse les clients à la verticale.
Le Club Saint-Germain, 23 mètres au-dessous du niveau de la mer. La cave par excellence.
Voici l'animateur du lieu, l'âme damnée des lanceurs de mode, le romancier scandaleux de J'irai cracher sur vos tombes, j'ai nommé M. Boris Vian.
Pourquoi avez-vous choisi Saint-Germain-des-Prés pour l'exercice musical? Parce que je crois que vous aimez sincèrement et profondément et passionnément la musique de jazz.
Oui, ça c'est une de mes manies, mais vous savez, il y a guère que cet endroit-là où on puisse faire de la musique de jazz et conserver un public.
Mais alors d'avoir le public que vous avez, vous dites tant mieux, tant pis, ou si ça vous est égal?
Ah, moi je dis tant mieux, parce que c'est un public qui apprécie cette musique-là et qui revient après l'avoir entendu.
Pierre Julliard, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, c'est la trompette de Boris Vian en 1947 que l'on entend dans une cave de Saint-Germain-des-Prés. Boris Vian, auquel vous venez de consacrer une belle biographie chez Gallimard. Mais alors, la biographie de qui? Parce qu'il était à la fois trompettiste de jazz, on l'entend, chanteur, acteur, poète, auteur également de plusieurs romans. Au fond, c'est assez curieux, mais toutes les activités de Vian, vous le dites, c'est un peu un inventaire à la Prévert.
Oui, c'est un peu ça. Et Prévert qui a d'ailleurs été son voisin de palier. C'est un grand éclectique, mais on peut pas dire que c'est un touche à tout, bon à rien. C'est, il a été bon en tout, c'est ça. Mmh. C'est ça sa particularité.
Et alors, s'intéressant très tôt à plusieurs choses en même temps, très précoce en ce qui concerne la littérature, vous dites qu'il avait appris à lire, à écrire très tôt, il commençait à écrire dès l'âge de 5 ans, et le jazz aussi, ça a beaucoup compté, presque plus à un moment donné encore que la littérature.
Oui, au début, il a vécu pour ça, pour le jazz, il a appris la trompette tout seul en écoutant du Big Beiderbecke, qui était son modèle, hein, une légende un peu noire du jazz. Et puis après, il a joué presque tous les soirs et pendant la guerre, d'ailleurs, il a vécu quasiment que pour ça.
Mmh. Et alors également, il a une activité qui est peu connue, il est ingénieur, c'est un étudiant pendant la guerre, il est étudiant à l'école centrale.
Oui, l'école centrale repliée à Angoulême, mais c'est-à-dire que comme son père finalement avait été un homme assez riche dont la fortune a périclité, qui a dû un peu courir comme représentant de commerce, il voulait avoir un vrai métier. Il était un littéraire évident aussi, mais il pensait que ça pouvait peut-être assécher un peu son art d'être faire d'études. Et il a fait un métier sérieux, il a été ingénieur, il s'est dit comme ça, je ne crèverai jamais de faim. Mmh.
Et puis alors, il était aussi, alors il s'intéressait beaucoup, avec ses frères d'ailleurs, au jazz. Ils avaient formé ensemble un groupe de jazz, hein. Ils s'exhibaient, ils adoraient la fête, et y compris pendant la guerre, vous le dites, Claire Julliard, la guerre, on a l'impression qu'il est un peu passé à côté, à la fois en plein milieu et à côté, il ne l'a
oui,
pas vu en fait.
Il l'a un peu traversé, il avait été élevé dans un milieu totalement apolitique, très une espèce de paradis communautaire, comme ça, où il avait... toujours dans la fête, parce que son père aussi était un grand enfant, il tenait beaucoup de lui. Et bon, il se l'est beaucoup reproché après, mais pendant la guerre, il était, il courait pour écouter du jazz avec ses copains. Il n'a pas vraiment pris conscience de tout ça. Ça a été après, ça a été à la libération presque.
Il faisait partie de ce qu'on appelait les azous. Enfin, il était une façon, au fond, de se moquer un peu de l'occupation, mais en même temps, on reprochait aussi bien la résistance, d'ailleurs, que les collaborateurs reprochaient à ces azous vraiment d'être un peu légers dans cette période qui était terrible, qui a été la guerre. Alors, il aimait la fête, vous le dites, et il a continué à en faire à Saint-Germain-des-Prés, juste après avoir
pour
publié...
Pour comprendre sur les azous, ils ont été légers, mais pour contrer, oui. C'était quand même dans un esprit libertaire, quoi.
Et puis on le retrouve donc à la fin de la guerre, il avait publié, on en parlera plus tard, J'irai cracher sur vos tombes, et puis on le retrouve à l'époque dans la plus célèbre cave du Quartier Latin, et là c'est le trompettiste de jazz que l'on venait entendre.
Et pour clôturer dignement une journée consacrée à la jeunesse, j'arrive maintenant au tabou. Vous avez tous entendu parler du célèbre bar qui, dans la rue Dauphine, abrite tous les soirs la jeunesse qui s'amuse. Tout à l'heure, Yves Degnaud vous présentera ses habitués, et en particulier le célèbre trompette Boris Vian. Pour l'instant, je voudrais que vous entendiez seulement le jazz et les jeunes qui dansent et qui s'amusent.
J'étais très amoureuse de Boris.
Juliette Gréco.
Pour moi, Boris, c'était les grands jeux du tabou, c'était la musique jusqu'à pas d'heure le matin, c'était la gaieté, c'était la jeunesse, c'était les discussions, c'était l'adolescence, c'était... Pour moi, Boris, c'était un peu mon frère. On s'amusait beaucoup de Boris, parce qu'il était très pâle, il avait une très longue figure, et que physiquement, il ressemblait à un Gréco.
C'est joli ce portrait que fait Julien Gréco de Boris Vian, hein, magnifique. On l'appelait le prince du tabou.
Ah oui, parce que le tabou, en fait, c'est une idée, je pense, au départ de Juliette Gréco, qu'il a un peu découvert par hasard, et puis très vite, ils ont décidé d'en faire un lieu pour la jeunesse. Ils ont fait appel à Boris Vian et à ses talents pour animer un peu les lieux.
Si elle disait qu'il était très pâle, c'est que très jeune, déjà depuis quelques années, il se savait condamné. Ça, c'est terrible. Il a vécu toute sa vie, qui a été brève, il est mort à 39 ans, dans la hantise de mourir, très pressé par le temps, se disant « je mourrai très tôt ». Ça, il le savait.
Oui, c'est un grand cardiaque. Il a eu des tas de problèmes de santé dans l'enfance. Et puis aussi, il faut dire que beaucoup de gens de sa famille sont morts très jeunes. Donc, bon, il a dit plusieurs fois je mourrai avant 40 ans. Maintenant, on ne sait pas jusqu'à quel point il se savait condamné, mais bon.
Il paraît qu'on venait le voir au tabou, parce qu'en plus on le savait qu'il était malade et condamné, en se disant il va peut-être mourir. D'ailleurs la trompette, eh bien on lui a vite interdit d'en faire,
oui, on
parce
disait,
que c'était dangereux.
Bon, les gens savaient qu'il pouvait mourir au milieu d'un solo. Et puis bon, peu à peu, il a dû abandonner la trompette. Ça, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal pour un grand cardiaque.
D'autant qu'au tabou, au Club Saint-Germain, il passait ses nuits blanches à jouer du jazz. Il n'y a que deux choses, disait-il, l'amour avec les jolies filles et la musique de la Nouvelle-Orléans, comme si, au fond, la littérature ne comptait pas pour lui. Or, au moment où il jouait de la trompette, comme on vient de l'entendre en 47, il venait de se rendre célèbre avec un livre sulfureux qui était ce livre, d'ailleurs, qui était interdit, J'irai cracher sur vos tombes, qu'il écrit, dites-vous, en 15 jours, hein, et sous un pseudonyme.
Oui, c'est un pari. Il avait un ami éditeur qui lui a dit qu'il avait des problèmes, comme tous les éditeurs, qui avait envie d'avoir un best-seller. Il lui a dit, écoute, un coin de trottoir, moi je vais te le faire ton best-seller. C'était une blague au début. Il a fait une limitation de ce qui était à la mode, c'était les romans noirs, Peter Cheney, etc. Et il a pris un sujet, malgré tout, qui lui tenait à cœur, qui était la question noire. Ça, c'était son aspect...
Aux États-Unis.
La question noire aux États-Unis, la ségrégation, etc. et ses conséquences désastreuses. Et on peut dire que ça a été son premier combat militant. Sa première prise de position politique, ça a été les Noirs. Et bon, il a écrit ce livre, mais qu'il considérait comme pas grand-chose.
C'est pas parce qu'il écrit sur les Noirs, c'est parce que on lui reprochait d'en avoir fait un roman extrêmement violent. Il s'agit en fait d'un métis, je crois, qui va tuer, qui a décidé d'assassiner deux blanches, qu'il séduit. Enfin, ça a été terrible. Et on écoute Boris Vian parler lui-même, d'ailleurs, de ce roman.
Le sujet de ce livre est une histoire de vengeance, pure et simple. Le héros du Chirac Craché sur vos tombes est un métis. Je pense que le problème du métis ne se pose que s'il y a problème sexuel, et que, honnêtement parlant, il fallait traiter ce sujet-là du point de vue sexuel. S'il n'y avait pas de rapport sexuel entre les Blancs et les Noirs, il n'y aurait pas de métis, et il n'y aurait pas de problème. Songez que ce livre a eu quand même énormément de lecteurs, et qu'il a suffi d'une plainte d'une personne pour le faire interdire, et on affirme qu'on vit en régime de majorité. On m'a accusé d'avoir présenté ce livre comme une traduction, et on a établi les poursuites d'après un décret-loi, je crois, du temps de Daladier en 39, qui autorisait la justice à poursuivre des traductions préjudiciables au moral de la nation ou quelque chose comme ça. Ceci, après m'avoir fait avouer que c'était moi qui l'avais écrit et que ce n'était pas du tout un auteur américain.
Mais
comme je l'avais dit pour l'amusement des journalistes, d'ailleurs.
Et le livre, en effet, a été interdit par ce monsieur ou à cause de ce monsieur dont vous parlez beaucoup, qui a vraiment pourchassé, embêté pendant des années Boris Vian, un certain Daniel Parker.
Oui, Daniel Parker, qui semble sorti d'un roman de Boris Vian, avec l'aspect comique comme ça, de ce cartel d'action morale qui persécute. Bon, il a écrit ce nom sous le nom de Vernon Sullivan, d'ailleurs. C'est tout à fait lui, les pseudos, il adorait ça. Hein. Mais bon, c'est une blague qui est un peu mal tournée. D'abord parce que ça a très bien marché, ça fait un best-seller, ça a éclipsé son œuvre véritable, ce qu'il considérait la l'écume des jours, etc. Il s'est fait mal voir du milieu littéraire, il a eu des ennuis de justice incroyables, parce qu'il y avait une sorte de climat relativement puritain après la guerre. Il s'est fait condamner, ça devenait vraiment, ça lui a causé beaucoup d'ennuis. Et après, tout le restant de sa vie, d'ailleurs.
Et jusqu'au bout, puisque il est mort, je le disais tout à l'heure, en voyant une adaptation. Il était furieux de cette adaptation.
Oui.
Justement, de J'irai cracher sur vos tombes. Et il est mort devant le visionnage, pour la première fois, de ce film qu'il désapprouvait totalement. Ça l'a tué. C'est assez extraordinaire.
Il a été fait sans son accord. Je crois que ce titre commençait à lui porter un peu malheur. Il avait une sorte de superstition après vis-à-vis de ce titre qui était une blague. Comme si c'était quelque chose qu'il pourchassait, qu'il lui portait malheur.
Et qui a fait, vous venez de le dire, Claire Julliard, de l'ombre à tout ce qui a suivi. Parce que ce n'est peut-être pas son meilleur roman, non. Alors que les autres n'ont eu pratiquement aucun succès. Vous les citez, Vers Coquin et Plancton, qui avait été écrit avant J'irai cracher sur vos tombes. Vers Coquin et Plancton n'a pas eu de succès, pas plus que L'écume des jours, avec le personnage assez drôle de Jean Solpart.
Oui. Hein.
Et il était quand même connu au Quartier Latin, et pas seulement pour ses talents de trompettiste.
C'était une légende de son vivant, mais surtout comme amuseur. Et ça, c'est pour un écrivain, c'est pas formidable. Oui, il était le prince du tabou, etc. Et puis on l'a un peu figé dans la légende, et puis il a eu ce rejet quoi, du milieu littéraire. Ça l'a beaucoup... je crois que c'était quand même essentiel pour lui, l'écriture. Et bon, voilà, c'est considéré comme un moment, comme un has-been, un écrivain raté, alors qu'il n'avait que 30 ans. Parce qu'il a tout fait très vite.
Très, très touché, très frappé aussi, justement, par le fait d'avoir, pour l'écume des jours, raté le prix de la Pléiade. Hein, il s'est effectivement senti rejeté. En plus, il va se brouiller, alors qu'il entretenait plutôt de bons rapports avec lui, avec Jean-Paul Sartre. Enfin, c'est plutôt Jean-Paul Sartre qui est un peu à l'origine de cette brouille, d'ailleurs.
Je sais pas, Jean-Paul Sartre, là, en fait, a commencé par le soutenir finalement en publiant L'écume des jours dans sa revue, et puis Les temps modernes, et puis Boris Vian l'appelait le patron un peu pour l'agacer, tout ça, il était un peu le trublion des temps modernes. Et puis, apparemment, Jean-Paul Sartre s'intéressait beaucoup à Boris Vian pour sa femme, et Michel, qui est une très jeune femme.
Oui, qui est partie avec Sartre.
Voilà. Hein, donc bon, ça n'a pas arrangé les rapports. Mais enfin, ils sont restés comme... Ils sont restés pas... C'est deux personnes très intelligentes. Donc, quand Boris Vian a fait le portrait de Sartre dans le manuel de Saint-Germain-des-Prés, il a fait un portrait tout à fait sympathique.
Alors, abandonné par son éditeur, aussi par Gallimard, par le milieu littéraire, par la critique qui le condamnait, que le considérait plutôt comme un auteur mineur, une espèce de dilettante, un type pas sérieux, et qui, en plus de surcroît, était un pataphysicien. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'en saurez pas plus après avoir entendu cette archive.
Aujourd'hui, les cahiers du Collège de pataphysique participent à cette émission Boris Vian et Henri Salvador.
Quelle est, Boris Vian, la construction pyramidale du collège de pataphysique?
s'il n'est pas indiscret, bien entendu, de vous le demander.
Oh, ça n'a absolument rien d'indiscret. Le collège de pataphysique est dominé par le curateur inamovible qui est le docteur Fostrol. En dessous du curateur inamovible se trouve un vice-curateur qui a droit au titre de sa magnificence.
Et maintenant, nous allons nous retirer sur la pointe des pieds et laisser Boris Vian initier à la pataphysique Henri Salvador.
Hé, monsieur !
Hein ?
Explication.
Des explications sur quoi ?
La science.
La science de quoi ?
La pataphysique.
Vous voulez savoir ce qu'est la pataphysique ?
Oui.
Définition. La pataphysique est la science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité.
Seul le collège de pataphysique n'entreprend pas de sauver le monde.
Et c'était Henri Salvador, Faut rigoler, une chanson écrite par son copain, Boris Vian. Je ne savais pas d'ailleurs qu'ils étaient si proches l'un de l'autre, je l'ai appris en vous lisant. Boris Vian qui était équarisseur en chef du collège de pataphysique. Je ne vous demande pas de quoi il s'agit. Hein.
Je crois que ça a été assez bien résumé dans l'extrait, c'est-à-dire c'est irrésumable.
La science des solutions imaginaires, et puis vous dites, ou je ne sais pas si c'est lui qui le dit, et que la pataphysique est à la métaphysique, ce que la métaphysique est à la physique, autrement dit, c'est la métaphysique de la métaphysique, je crois qu'on n'en saura pas plus. Hein.
C'est un peu compliqué à résumer là.
Bon, enfin, c'est surtout pour rigoler.
C'est pour rigoler, même s'ils aimaient bien d'être un peu imperturbable. Hein. Ça fait partie du pataphysicien. Il est imperturbable puisqu'il ne prend pas le monde au sérieux, il ne va pas non plus en rire. Je crois que ça a été un des moments heureux de la vie de Boris Vian, parce que comme c'était un admirateur de Jarry, le jour où on l'a intronisé dans le collège de pataphysique, il a vraiment trouvé sa famille, un peu sa famille spirituelle, ses vrais amis. Et puis, il a adoré, c'est vrai, Henri Salvador un peu plus tard. C'était Bobo et Salvamuche, et ça aussi, ça lui a mis beaucoup de baume au cœur, la joie de vivre de Salvador.
Qui adore les canulars, qui adore les bons mots, ça c'était vraiment tout à fait Boris Vian, on le trouve à peu près dans toute son œuvre. Je passe le plus clair de mon temps à l'obscurcir. À quoi bon soulever les montagnes quand il est si simple de passer dessus? L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Enfin bref, et on trouve ça dans toute l'œuvre de Boris Vian.
Oui, c'est quelqu'un qui tord le coup aux mots, qui joue avec les mots, il y a mais c'est une richesse exceptionnelle son style. Oui, ça,
et alors que l'on retrouve aussi dans quelque chose dans lequel il se lance très tard, je croyais que c'était beaucoup plus tôt, mais en vous lisant je me suis rendu compte, car je veux dire que c'était en 1955, brusquement, ses livres n'ayant pas beaucoup de succès, il se lance dans la chanson.
Oui, enfin, il faut dire qu'il tirait un peu le diable par la queue.
Ah oui, complètement, oui.
Il est un peu poursuivi par le fisc, enfin, plus d'argent, quoi. Et comme il fait tout avec sérieux, il se dit, voilà, la poésie dort dans les bibliothèques, c'est l'avènement du micro-sillon, c'est les années 50, et il se dit, mais il faut faire des chansons. Alors, il se met à travailler, à lire des anthologies, à étudier vraiment la chanson, à en écrire. Il veut laisser une grande chanson aussi. Il a l'idée de laisser une grande chanson. Il s'aperçoit qu'il y a eu des grandes chansons antimilitaristes. Il décide d'en écrire une. Puis, il fait aussi beaucoup de choses amusantes pour singer le rock'n'roll qui arrive en France et qui trouve pas très sérieux. Enfin, c'est une chose qu'il a pas adorée, quoi. Il s'en est moqué plutôt.
En tout cas, sauf peut-être de celle justement que vous venez de suggérer et qui a provoqué un scandale d'ailleurs, autant que j'irai cracher sur vos tombes, Le Déserteur, qui en 1955 a été sifflé dans toutes les villes de France où Boris Vian est passé, comme s'en souvenait plus tard son directeur artistique, Jacques Aliti.
Je dois dire que quand il l'a chanté, cela provoquait des mouvements assez divers dans la salle. Il y avait une partie du public qui était violemment contre. Ça avait provoqué un scandale sans pareil, un scandale tel que il m'avait téléphoné pour me dire, est-ce que vous croyez que je devrais continuer ou est-ce que vous ne pensez pas que je devrais peut-être arrêter complètement mon tour? Je lui ai dit, écoutez, j'arrive. Il devait chanter au Touquet. Ce soir-là, la salle était donc comme d'habitude archi-comble. Boris rentre en scène et avant qu'il commence à chanter, il y a quelqu'un qui se lève dans la salle et qui lui dit, tu ne la chanteras pas ta chanson.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la paix. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Alors, écrire le déserteur Claire Julliard à la fin de la guerre d'Indochine, c'est en 54, je crois qu'il a écrit ça au lendemain de Dien Bien Phu, la chanter au début de la guerre d'Algérie, on peut comprendre quand même que ça ait dérangé du monde, ça fait un vrai scandale.
Au début, c'est passé très bien, quand Mouloudji l'a mis à son répertoire, ça s'est passé comme... c'était une jolie chanson, etc. Puis ça a pris une autre résonance au moment du rappel des réservistes en Algérie. C'est là que ça a commencé le scandale. Et que Boris Vian, passant à ce moment-là sur scène... Il a tenté la scène, ça a été un désastre, mais bon, trop précurseur une fois de plus. Hein. Et il s'est fait poursuivre à travers toute la France par des paramilitaires, des commandos paramilitaires qui démolissaient ses spectacles, etc. Comme d'ailleurs Gainsbourg plus tard.
À Gainsbourg d'ailleurs, que Boris Vian a lancé littéralement, en tout cas.
Absolument. S'il y a une chose qu'il faut retenir de lui sur scène, parce que vraiment ça ne passait pas, c'était un introverti et puis il avait un genre qui était trop en avance, c'est que c'est le déclic qu'il a provoqué chez Gainsbourg, comme ça, qu'il s'est dit, mais si lui est comme ça, si gauche sur scène, qu'il a ce style étrange et tout,
moi aussi je peux le faire. Il y a Brassens aussi qui l'admirait beaucoup et qui disait « Un temps viendra, comme dit l'autre, où les chiens auront besoin de leur queue et tous les publics des chansons de Boris Vian
».
Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est qu'il y en a eu d'autres qui ont fait scandale, la Java des bombes atomiques par exemple, qui était assez antimilitariste, mais qu'elles n'ont pas eu tellement de succès en leur temps.
Non, le disque qui
a
fait...
Il y a eu
fait...
un disque, bon, le, ce disque a fait non, un livre, 3000 exemplaires.
Il y a eu un peu l'histoire de la censure du déserteur. Hein. Il a été censuré à la radio, tout simplement. Il arrivait avec un cachet. C'était pas le moment de le passer. Ça faisait scandale sur scandale. Et bon, les chansons de Boris Vian, non, ça ne plaisait pas encore. Ça aurait plu 10 ans plus tard.
Oui, plus c'est de manière posthume en tout cas. Alors cela dit, gentiment quand même, il y a des gens qui le font travailler parce que vraiment, il est dans la dèche. Hein. Oui. Lui et sa femme, sa seconde femme, Ursula, il vit vraiment... alors lui, il vit d'expédients, il fait, on pourrait dire, des ménages. Il traduit, lui, l'antimilitariste, il traduit les mémoires du général américain Bradley. Il travaille chez Philips. Chose étonnante aussi, j'ai appris une chose, c'est qu'il était très apprécié chez Philips et c'est lui qui a inventé le mot « tube ».
Oui, c'est à la fin de sa vie qu'il a commencé comme ça une nouvelle carrière de directeur artistique. On l'a récupéré parce que Canetti et tous ces gens ont bien vu que chez lui, il y avait un potentiel comme ça de créativité qui pouvait être très intéressant, même s'il était un peu excentrique, dans une maison de disques, qu'il avait plein d'idées, une à la seconde, qu'il a relancé des collections de jazz, etc., des rocks, des tours, enfin, c'était une idée à la seconde, oui.
Et puis alors, il adore le cinéma aussi, hein. Ça c'est une activité dont vous parlez,
il n'aurait aimé en faire, oui. Non, ça, s'il avait vécu un peu plus tard, il aurait fait du cinéma à peu près sûr, mais là, il se contentait, parmi les 1000 choses qu'il faisait, de lancer des synopsis sur le papier, et puis aussi d'entendre faire des courts-métrages, ou d'apparaître...
Un documentaire sur Saint-Tropez aussi.
Ou d'apparaître comme figurant, c'était parmi les millions de choses qu'il faisait. Quoi.
Alors figurant, par exemple, dans Notre-Dame de Paris, où il joue le rôle d'un cardinal. Et puis alors dans Les Liaisons dangereuses, qui est tourné quelques semaines avant sa mort, et où l'on peut l'entendre dans le rôle de Prévan, avec ce dialogue incroyable avec Jeanne Moreau, quand on sait que Boris Vian est mort, quelques jours plus tard, d'une crise cardiaque.
Juliette, vous ne vous occupez jamais de moi.
Mais je vous aime bien, Prévent.
Ce bien me crève le cœur.
Vous avez un cœur?
Oui, depuis que Valmont nous a fait rencontrer.
Vous devriez lui être reconnaissant, c'est rare aujourd'hui d'avoir un cœur.
Il nous disait, oh oui, mais je suis malade. Et on ne croyait pas, Boris, parce que les enfants ne croient pas qu'un autre enfant est malade. Et puis le cœur est une chose cachée. C'est une maladie extraordinairement discrète et élégante. Et puis un jour, Boris a dit, j'ai le cœur trop gros.
Nous avons appris il y a quelques minutes seulement la mort subite de Boris Vian. Boris Vian aurait été terrassé par une crise cardiaque alors qu'il regardait « J'irai cracher sur vos tombes ».
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver.
les singes à queue nue dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent aux nids truffés de bulles. Tant de choses à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir.
Quand j'en aurai assez d'entendre les enfants pleurer dans le noir, quand j'en aurai assez de voir les villes crouler sous les cendres, quand j'en aurai assez des larmes, des cris, du sang et du vacarme, quand j'en aurai assez du monde à moi, la lune blonde.
C'est Terlune, Magali Noël, sur des paroles de Boris Vian. Boris Vian, mort il y a presque 50 ans, le 23 juin 59, dans cette salle de cinéma où on jouait justement l'adaptation qu'il trouvait désastreuse de son livre.
Oui, c'est un peu le mythe de la créature de Frankenstein, en fait, la créature qui dévore son créateur. Finalement, il a été dépassé par ça, et il n'en pouvait plus. Et voilà, le milieu littéraire l'a un peu usé, la scène aussi, et puis le cinéma l'a achevé, en fait.
Ce qu'il y a de curieux, quand même, c'est que aujourd'hui, on a le sentiment qu'il est beaucoup plus reconnu qu'il ne l'était de son temps, Claire Julliard.
Oui, la vraie gloire de Boris Vian, c'est né en 68, parce qu'il a annoncé ça, c'est l'esprit libertaire, la rafale, comme ça, de jeunesse et d'enthousiasme de 68. Ouais. Donc, à ce moment-là, tout le monde s'est mis à lire et c'est devenu un des auteurs français les plus traduits dans le monde, enfin, lus dans le monde. Et enfin, c'est un peu dommage quand on sait ce qu'il a vécu, mais bon, voilà, il a été une reconnaissance qui perdure parce que chez les jeunes générations, les 13-15 ans, on lit toujours Boris Vian.
Oui, parce que c'était un précurseur. Raymond Queneau avait cette très jolie formule. Boris fut toujours futur, sa mort, c'est du passé, donc disait Raymond Queneau. Merci beaucoup, Claire Julliard. On se quitte justement exceptionnellement avec Boris Vian, en guise de générique, une de ses plus célèbres chansons que me demandait ce matin même une de ses admiratrices, Patricia Martin.
Je suis snob, je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ma demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien, mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on garde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon.
Je rappelle que Claire Julliard, qui était mon invitée, est l'auteur d'une biographie passionnante de Boris Vian qui vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection Folio Biographie. À lire également les œuvres complètes de Boris Vian en 15 volumes aux éditions Fayard. Et puis je signale enfin pour le 60e anniversaire de sa parution la sortie d'une édition limitée de l'écume des jours comprenant une quarantaine de documents rares ou inédits qui sera disponible le 6 juin prochain en livre de poche. Vous avez pu entendre un court extrait des Liaisons dangereuses de Roger Vadim édité par René Château Vidéo. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Philippe Duclos, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et à notre réalisateur Bertrand Chaumeton. Demain, dans 2000 ans d'histoire, il y a 100 ans, la révolte des vignerons du Midi.
Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.